turn that thing.
Boulevard 102.1. 7h33 minutes, c'est 8 degrés sur Québec. Ça va se réchauffer, puis pas pire à part ça, un 19 degrés. C'est le maximum qu'on pourra atteindre aujourd'hui. Peut-être qu'on est capable, si on pousse un peu plus, un 20, un 21, ça se prendrait bien aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, c'est généralement nuageux, minimum de 7 degrés. Demain, mercredi, ce sera des nuages avec un 40% de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 17. Jeudi, c'est de la pluie, maximum de 11 degrés. Vendredi, c'est de la pluie, maximum de 7.
Par texto 88-971-101, on nous écrit 73 Nord. Quand tu prends la sortie de la rue Beaulieu, il y a un auto avec le devant complètement encastré avec un policier sur place direct à l'intersection du stop. Ça peut ralentir éventuellement. Donc, prudence dans le secteur. Sinon, l'heure de pointe là, qui s'installe tranquillement, là, le secteur des ponts, c'est déjà tough là, pour autant la porte que pont de Québec. 40 Est, ça commence à ralentir, je vous dirais, hauteur de l'avenue Legendre jusqu'à Henri IV. Henri IV Sud entre... je vous dirais boulevard Wilfrid Hamel et le boulevard du Versant Nord, c'est quand même au ralenti. Capitale Ouest, déjà pas mal jamé là, entre Seigneurial et l'approche de Laurentienne. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est au rouge. Henri IV Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest au ralenti aussi. Et quand tu roules Shannon à partir, quand tu roules vers Shannon à partir de la route Léo-Major, c'est solidement au ralenti.
On parle de dossier qui touche la politique avec Marc-André Leclerc qui est chroniqueur politique et vice-président chez National. Salut Marc-André, bon matin.
Bon matin.
Connais-tu le site polymeter.org?
Oui.
On a sorti les promesses électorales de Mark Carney, de François Legault et de Justin Trudeau pour l'exercice. Pour ce qui est de Mark Carney, ben, ça avait tout juste de commencer, donc il est rendu à son 351e jour. Il aurait fait 440 promesses. Puis la dernière mise à jour date du 16 avril, donc c'est quand même assez récent. François Legault, 2652 jours, 401 promesses. Et Justin Trudeau, son mandat, lui, est terminé, 3217 jours. 1050 promesses. Et ce qu'on peut apprendre dans le mandat qui nous intéresse, c'est le mandat de Mark Carney, qui est encore tout jeune là, comme mandat, 351 jours. En suspens, Marc-André, 62 promesses. Donc, 62% des promesses. En cours, 26%. Réalisé, 6%. Partiellement réalisé, 3%. Et des promesses rompues, on est à 3%. C'est encore trop tôt pour se faire une idée là, des promesses que Mark Carney va avoir été capable de réaliser en 4 ans. Mais si on avait un principe de recall aux 2 ans, s'ils n'ont pas réussi à remplir 50% des promesses pour lesquelles, Colin, ils ont été élus, est-ce que tu as l'impression qu'on travaillerait plus vite à remplir nos promesses?
Oui, probablement. C'est sûr que si on avait ce système-là, ça changerait un peu la donne. Mais c'est certain qu'on le voit, là, surtout au fédéral, avec M. Carney qui veut aller vite, 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 mais il se rend compte puis que c'est long. Hein? La machine, c'est long. C'est difficile de mettre des éléments en place. Même des fois, comme hier, c'est un bel exemple, on a fait l'annonce sur le fonds souverain. Il y a encore plein de détails là, qu'on ne connaît pas. Excusez-moi, il y a plein de détails que M. Carney et que M. Champagne n'étaient pas capables de donner. Peut-être qu'on aura plus de détails à 16h cet après-midi lors du dévoilement de la mise à jour économique.
Ouais.
Mais sinon, je pense qu'il y a la lenteur aussi de la machine. Donc, il y a le politicien qui le sait que la machine est lente, qui fait des promesses pareilles. Mais également, de l'autre côté, il y a l'état de la situation. Des fois, il y a un peu d'inconnu par rapport à certaines promesses qu'on dit ah, ça va être facile, puis finalement, c'est plus compliqué que prévu. Là.
La mise à jour économique aujourd'hui, tu t'attends à quoi?
Ben, on va nous annoncer que il y a pour l'année 25-26, le déficit est plus bas que prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a des revenus de plus. On avait sous-estimé des revenus, probablement à cause de la, excusez-moi, la guerre tarifaire. Donc, à partir de ce moment-là, ça va être intéressant de voir est-ce que, mettons, on disait que c'est 78,3 milliards le déficit. Est-ce que si on 10, 20, 30 milliards de plus en revenus, est-ce qu'on va vraiment baisser de 10, 20, 30 milliards le déficit ou on va continuer à dépenser? Moi, je pense que c'est l'option B. C'est que même s'il y a une entrée supplémentaire ou non prévue ou plus élevée qu'on pensait de revenus, ça risque qu'on est encore dans un cycle où on dépense encore beaucoup. Puis on va sûrement nous dire que le ratio dette-PIB est bon, tout ça, mais il reste néanmoins qu'on reste dans un cycle dépensier. Et ça, c'est certain qu'à long terme, ça va nous jouer des tours.
Est-ce que tu as l'impression que Mark Carney tend à bouder un peu à Donald Trump en allant se promener un peu ailleurs, en tentant d'éviter les sujets concernant la CEM, en disant que nous, on ne pliera pas sur rien, déjà qu'on a plié sur beaucoup de choses? As-tu l'impression qu'il laisse traîner un peu les choses? Parce que dimanche soir, tout le monde en parle, c'est M. Jean Charest qui m'a appris
Oui.
ça, je n'étais pas au courant. Si jamais on ne réussit pas à s'entendre, ben, l'entente va être reconduite jusqu'en 2038 avec l'entente initiale de la CEM. Donc, on revient à ce qu'on avait avant et ça jusqu'en 2038. Ça pourrait-tu être une stratégie de Mark Carney de laisser ça traîner le plus longtemps possible?
Oui, c'est vrai, puis M. Charest a raison que le 2 juillet, là, si on n'a pas de, si on s'entend pas, c'est pas la fin du monde. Cependant, c'est que même si on règle pas ça à court terme, ça reste que l'incertitude, c'est jamais bon pour notre économie. Donc, ça, c'est sûr et certain. Monsieur Carney joue l'horloge présentement en se disant que c'est mieux d'avoir l'entente actuelle qu'une nouvelle entente qui serait mauvaise pour le Canada. Ça, là-dessus, il a raison. Mais Monsieur Carney, on le voit beaucoup présentement, qui pousse, hein, il pousse vraiment son agenda à lui au niveau de la diversification.
Ouais.
Je trouve qu'à certains points, Monsieur Carney joue un peu un jeu dangereux parce que c'est sûr qu'au Canada, on aime ça, haïr les États-Unis. C'est sûr qu'au Canada, on déteste pour 150 raisons Donald Trump. Cependant, je ne dis pas que notre relation post-Trump avec les États-Unis va revenir à ce que c'était dans les années 80-90 au début des années 2000. Cependant, moi, je pense, comme M. Charest, comme le dit à tout le monde en parle, que les États-Unis vont toujours rester notre plus grand allié.
Ben oui.
Donc, ça, on veut faire des diversifications. Je trouve que des fois, M. Carney pousse un peu trop le bouchon, justement, pour nous vendre son idée de faire des diversifications, comme si c'était fini avec les États-Unis. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour le Canada, l'important, ce qu'on attend présentement, c'est de dire on ne veut pas perdre nos acquis. T'sais, on ne veut pas perdre nos acquis. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'accord actuel nous convient. Je trouve qu'on manque un peu d'ambition. Parce que si on veut conserver nos acquis, ben, je pense que comme les Américains, comme Donald Trump, il faut arriver à la table de négociation en disant, ben, nous, là, il y a deux, trois patentes là, dans l'entente là. Qui nous chicote. On veut l'améliorer pour le bien de nos secteurs, pour le bien de notre industrie. Donc, si on veut s'assurer de conserver nos acquis, ben, il faut en demander un peu plus. Parce que avec M. Trump, c'est un jeu de négociation. Lui, il arrive avec 6-7 demandes, même avant de négocier. Ben, nous, il faut au moins arriver avec des demandes aussi pour avoir ce jeu-là avec lui de négociation. Puis, il pourrait dire qu'il a flanché. Mais pas flancher, ou peut-être on aura concédé, mais pas sur nos acquis actuels, sur des choses qu'on aimerait voir dans le futur.
Oui, puis en même temps, Marc-André, la diversification des marchés, là, on a bien beau augmenter significativement le commerce, par exemple, avec l'Europe. C'est seulement présentement 6% là, de notre PIB qu'on va chercher avec ça. Donc, c'est jamais pour combler l'écart qu'on perd à l'heure actuelle avec les États-Unis, par exemple, avec les tarifs sur le bois d'œuvre ou l'aluminium.
Effectivement, on va aller chercher quelques pourcentages. Peut-être qu'on est capable de nos exportations, on va chercher quelques pourcentages, puis on va diminuer. Puis je regardais hier les chiffres au Québec, puis ça l'a un petit peu diminué par rapport à nos exportations, importations versus nos échanges commerciaux avec les États-Unis. Cependant, c'est ça, parce que maintenant, on a beau dire l'Europe, 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 là, mais l'Europe, là, il y a un océan qui nous sépare, là. Donc, il reste que c'est des limitations. Puis il y a l'intégration de nos deux économies entre le Canada et les États-Unis, que ça, on ne pourra jamais recréer ça d'une autre façon avec l'Europe. Fait que oui, il faut encourager, oui, il fait la diversification, mais combien d'annonces qu'il y a eu dans les 10 dernières années pour aider la diversification? Là, clairement, peut-être que ça va accélérer ça, mais il reste néanmoins que les États-Unis, qu'on le veuille ou non, vont rester notre plus grand partenaire commercial.
Entièrement d'accord avec ça. La première ministre Christine Fréchette qui a été faire un tour à Washington, elle a rencontré le responsable américain qui est chargé de la révision de l'ACEM. Est-ce que du côté de la CAQ, la stratégie, c'est de montrer que Christine Fréchette est première ministrable? Est-ce qu'elle va se chercher une certaine crédibilité en allant représenter les Québécois à Washington? Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner aux Québécois la visibilité de Christine Fréchette à Washington? Puis ce qu'elle a réussi à faire là-bas en jasant avec Jamison Greer.
Oui, ce qu'on voit présentement, puis ce qu'on a vu hier avec Mme Fréchette à Washington, c'est l'avantage du pouvoir en politique. Et l'avantage du pouvoir en politique, c'est hyper important. Quand c'est toi qui as les deux mains sur le volant, tu peux faire, entre guillemets, tout ce que tu veux. Et c'est l'image qu'elle s'est donnée. Elle est allée à Washington, on entend qu'elle pourrait même aller au Mexique, en Europe également. Ça permet une stature, là. Et c'est, tu sais, parce qu'il y a des choses que comme premier ministre et comme chef de parti, au parti qui est au gouvernement, que tu peux faire. Tu peux annoncer des belles candidatures, mais ça, toutes les formations politiques peuvent le faire, même dans l'opposition, tu sais. Le travail parlementaire également aujourd'hui, et aussi, les partis d'opposition peuvent se démarquer. Mais quand tu es premier ministre ou première ministre du Québec, d'aller représenter le Québec à l'étranger, ça, il y a juste toi qui peux le faire. Donc, c'est une arme redoutable. Et à partir de ce moment-là, Mme Fréchette, elle l'a bien joué. C'est un bon coup. On sent qu'il y a un plan. Il y a un texte de Tommy Chouinard dans la presse. Même, il y avait des préparations qui étaient faites pour les deux camps, pour le camp Fréchette, camp Drainville. Donc, on sent qu'il y a une préparation, puis on l'exécute bien présentement. Donc, on ne peut pas dire que Mme Fréchette, depuis qu'elle est arrivée en poste, depuis qu'elle est assermentée, qu'elle a fait des erreurs, là. Ce qui va être intéressant de voir, c'est les prochains sondages. Parce qu'à la CAQ, présentement, on sent qu'il y a comme, OK, ça va bien, les choses sont là, c'est beau, mais si ça ne bouge pas, ils ont besoin, ils vont avoir besoin, eux, pour s'encourager à l'interne. Après ça, tu travailles, puis ça, ils ont fait la course à la chefferie, son entourage, tu t'en vas au bureau de la première ministre. Donc, ils vont avoir besoin d'un petit pep, là, d'un petit coup de pouce, là. Mais s'ils ne l'ont pas, tu dis, OK, on a fait 100 fautes, ça va bien, tout le monde nous dit que ça va bien, on a fait une bonne tournée à Washington. Si le prochain sondage au mois de mai, ça n'a pas bougé, là, ça va être un petit peu décourageant pour eux.
Moi, j'aime bien avoir des technocrates au pouvoir, là, mais malheureusement, dans la population, des fois, on veut des gens qui sont un peu plus colorés, avec beaucoup de charme. On avait beau aimer ou pas aimer François Legault, c'était quelqu'un qui était quand même, somme toute, très sympathique. Dans le cas de Christine Fréchette, elle est très beige, elle est très technocrate aussi. Est-ce qu'on va travailler un peu sur son image?
Oui, sûrement qu'on va travailler un peu pour contrer cette perception-là, hein, que si tu dis beige, ça, c'est le mot que Bernard Drainville utilisait.
Ouais.
Mais il ne faut pas que tu dénatures également un politicien. Moi, je m'en parlais toujours en campagne électorale au début des années 2000, Stéphane Dion qui joue au basketball.
Pierre Poilievre avec ses pipes.
Sauf que Pierre Poilievre avec ses pipes, ça reste qu'il fait. Et enfin,
Stéphane Dion, basketball, c'était pas un succès.
Je suis pas sûr. Fait que c'est ça. Fait que c'est là. Faut pas que tu dénatures. Donc, on peut peut-être donner un peu de couleur à Mme Fréchette, mais d'un autre côté, tu peux pas non plus te dénaturer parce que ça va avoir l'air faux. Tu sais, ça nous commence à nous faire à jouer au hockey dans la rue, hockey bottine. Au deck hockey, ben là, on sait que Mme Fréchette n'avait pas ça samedi soir, là. Donc, faut que tu montes un côté d'elle, mais tout en gardant le naturel, parce que c'est ça qui est payant. Si on commence à essayer de la maquiller, de la déguiser pour montrer qu'elle est colorée, ça ne fonctionnera pas. Mais tout dépendamment, tu sais, de ce qui va se passer entre aujourd'hui et l'élection, peut-être la population, quelqu'un la stabilité, la confiance, le côté un peu beige. T'sais, Mark Carney, là, c'est pas un clown. Là. C'est pas un amuseur public. Là. Il n'est pas en train de nous faire des cracher du feu. Là. Donc, ce côté-là a plu aux Canadiens, puis une bonne proportion de Québécois. On le voit dans les sondages actuellement.
Oui, mais c'était le contexte. Là. On avait un vilain du côté des États-Unis, puis on avait quelqu'un qui avait un gros CV au niveau de l'économie.
Mais exactement. Yannick te dit le mot le plus important. Le contexte.
Ouais.
Est-ce que la prochaine campagne, ce sera vraiment de savoir qui peut bloquer Paul Saint-Pierre Plamondon sur un référendum? Ça peut être ça. Et dans ce cas-là, Mme Fréchette peut jouer ce rôle-là. Charles Milliard aussi. Éric Duhaime aussi. Mais Madame Fréchette pourrait jouer ce rôle-là, de dire c'est moi qui peux bloquer la troisième voie. Vous avez peur du référendum, vous avez peur de Saint-Pierre-Plamondon, c'est pas le temps de faire un référendum dans un contexte qu'on connaît avec les États-Unis, avec la guerre au Moyen-Orient. Je suis la stabilité. Je suis peut-être un peu beige, mais j'amène cette stabilité-là.
OK, j'aime ça. Marc-André, ça a été un plaisir. Soigne ton petit rhume, là.
Moi, c'est la fin là, d'une longue semaine.
On est tous là-dedans.
Salut Marc-André.
Bye
Bye
bye.
bye. Marc-André Leclerc, qui est chroniqueur politique et vice-président chez National. On parlait de crédibilité, d'image, d'aller chercher quelque chose de concret à Washington pour ce qui est de Mme Fréchette. Je pense qu'avec toutes les images qui sont parvenues au Québec, ça a peut-être fait une petite
Ouais.
différence, là. On se dit, oh, wow, le premier ministre qui s'en va faire un tour là-bas. Qu'est-ce que ça va donner concrètement?
On verra.
Est-ce que ça va nous retomber dans les poches? Je pense pas, mais au
Non.
moins au niveau de sa crédibilité, j'imagine que ça a un peu augmenté aux yeux des gens qui, ben pour eux, Christine Fréchette, c'était pas la sienne.
Bien, on parlait beaucoup d'une marque usée à la CAQ. J'ai l'impression que dans les 2 dernières semaines, Christine Fréchette travaille à améliorer cette marque usée-là. C'est pour ça que j'ai hâte de voir dans les prochains sondages. Est-ce que l'usure de la CAQ, c'est irréversible ou avec une Christine Fréchette qui est très méthodique, ça va permettre de gagner quelques points de pourcentage?
Max.
Il n'est pas rare que le mardi soit la journée la plus difficile de la semaine, ça, la circulation, puis je vous dirais que ça s'enligne pas mal pour ça. R4 Sud, hauteur boulevard Wilfrid Hamel, la voie de gauche qui est bloquée par un accident. Les services d'urgence qui sont sur place, ça semble causer un pas pire ralentissement. Autrement, Capitale-Est vers l'accès vers Laurentienne-Sud, partiellement entravé, panne, remorquage en cours, ça aussi c'est pas facile. En fait, Capitale des deux bords, ça roule pas, là. Capitale-Ouest, ça ralentit à partir de mi-chemin entre Beau-Royal et Seigneurial, puis ça reste assez tough jusqu'à l'autre bord de Laurentienne, puis Capitale-Est, à partir du moment où tu entres par Henri IV jusqu'à l'approche de Pierre-Bertrand, c'est jamé. 40 Est entre Henri IV et Duplessis, c'est au rouge. Secteur des ponts pour passer la rive sud à la rive nord, c'est pas facile présentement. Sinon, Henri IV sud, hauteur, Chauveau-Ouest, un petit ralentissement. Ça, c'est pas si pire encore. Et plus haut, quand tu roules vers Shannon, à partir de la route Léo-Major, c'est bien bouché.
Après la pause, Denis Gravel sera là pour le pit stop, c'est à ne pas manquer.
Pour nous informer de ce qui se passe